France Bleu, RCFM. France Bleu. RCFM, le Mac des sports.
A 6 ore passate di 9 minuti e si ribiglia seguita in tutti i casi, si continua già piuttosto su semissione sportiva di questa domenica. Abbiamo da parlare qui a un piccolo momento di a corsa di a Baulina che si è corsa dunque ieri a lungo di a giornata, e poi vedremo ciò che sarà l'attualità di a settimana da bene, in cui fra altro un giro di Corsica storico, corsa di vittura che principierà domani, che si tenerà a lungo di a settimana nanta strade isolana. E avant de voquer ces sujets là, nous allons parler de volleyball désormais avec deux invités, Antoine Exigan, le président du Gazélec, et son vice-président Sylvestre Samarchi.
RCFM, le Mac des sports.
Bonsoir messieurs, et merci tout d'abord d'être venus jusqu'à nos micros dans nos studios ajacciens. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Antoine Exigan, bonsoir. Heureux de vous avoir une fois encore au micro, infatigable, inusable. Antoine Exigan, on repart, Antoine, pour une nouvelle saison dans ce championnat de Ligue A. Une saison qui a été, on peut le dire, particulièrement difficile en termes de préparation.
Oui, on peut dire comme ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, on a refait un collectif totalement nouveau, à peu près 80% des nouveaux joueurs qui sont arrivés. On n'a conservé que 3 joueurs de l'effectif de l'an dernier. Ça, c'était déjà un constat, puisqu'on a, par rapport à notre budget qui a été cette année un peu raccourci, un peu le budget. Donc, on a pu faire un collectif beaucoup plus rajeuni, avec de nouvelles ambitions, mais on a eu quand même une préparation assez difficile, je dirais même très difficile, parce qu'on a, même au niveau des matchs amicaux qu'on a pu faire, que ce soit à Paris, que ce soit à Martigues, on n'a pas pu aligner notre véritable collectif, parce qu'on a actuellement 3 blessés pratiquement, enfin 2 pratiquement indisponibles pour un long moment, et il a fallu composer, et l'entraîneur a dû composer pour construire un peu ce nouvel effectif, et surtout pour être performant au départ.
Alors performant d'entrée de jeu, ça c'est important, Antoine, parce qu'on sait que derrière la saison, plus elle va et plus elle est difficile, et plus il est difficile aussi de tenir la route.
Tout à fait. Et, vous savez, les ambitions ont été revues, bon, un petit peu à la baisse, mais on a quand même un collectif politique, comme je vous disais, qui est très rajeuni, et qui pourra performer, je pense, mais il faut lui donner un peu de temps, parce qu'il faut que le collectif, et comme on dit, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que le collectif se connaisse un peu mieux. Mais je vous dis, on a eu un problème avec le passeur, on a été obligé de prendre un joker en urgence, je dirais, pour pouvoir pouvoir travailler avec un joueur qui était comme le joueur qu'on avait misé, enfin, qu'on avait fait un gros pari, c'était un passeur chinois, qui est arrivé, et puis on a eu des soucis avec son genou gauche qui avait des problèmes au niveau du cartilage, et qu'on a été obligé de mettre au repos pour un long moment.
Alors on part avec un effectif restreint, amputé de plusieurs titulaires. Malgré tout, on reste confiant, on reste ambitieux. On va pas se contenter de jouer, je dirais, le maintien. Ou est-ce que, oui, on est vraiment dans une année de transition où il faudra prendre son mal en patience et être plus que jamais derrière cette équipe du Gaz?
Bah écoutez, on est toujours ambitieux quand on joue, surtout à ce niveau-là. Je pense qu'on peut viser les playoffs. Vraiment, c'est un peu l'objectif aussi. Mais chez le maintien sera, je pense, l'objectif majeur. Si on peut faire mieux, au contraire, on fera, on pourra faire. Mais je vous dis, il faut que ce collectif se connaisse mieux. Il faut les automatismes, tout ça, on travaille tous les jours pour ça. Mais vraiment, il faut attendre un peu. Je crois qu'il faudra nous donner un petit peu de temps. Mais je pense qu'on a du potentiel. On a du potentiel.
Alors, ce potentiel de l'équipe première, considérant que les budgets sont revus à la baisse, considérant que, eh bien, on n'a plus les mêmes aides que par le passé, notamment des collectivités locales. Antoine, l'idée, c'est de bâtir, d'enrichir le club de formation réserve, de centre de formation. On va en parler dans un instant. Mais la politique un peu générale, c'est ça. C'est essayons de faire émerger des joueurs qui soient susceptibles un jour d'intégrer le plus haut niveau.
Tout à fait. C'était un objectif qu'on avait depuis un certain temps, d'ailleurs, qu'on a pu mettre en place cette année, même avec des restrictions budgétaires. C'est un objectif qu'on avait à cœur et qui se réalise cette année. Je suis heureux de l'annoncer parce que c'est quand même quelque chose qui nous tenait à cœur.
Alors, Sylvestre Saint-Martielli, justement, peut-être avant de parler du centre de formation, Antoine, est-ce qu'on a des nouvelles justement de cette équipe réserve qui évolue donc en National 3, hein, sauf erreur de ma part, et qui jouait du côté de Mandelieu aujourd'hui?
Tout à fait, elle a joué à 15h, c'est incliné 3-7 à 2. Après avoir mené 2-7 à 1, c'est incliné au tie-break. Ça a été un match, j'ai eu quelques échos, un beau match de notre équipe. On s'est incliné de justesse 15-13 au tie-break. Je pense que c'est une grande performance parce que Mandelieu, c'est déjà un habitué de cette division. Donc c'est assez positif, même si on n'a pas gagné.
Et justement, Antoine, est-ce qu'on peut faire jouer justement à ce niveau de compétition nationale 3 des joueurs professionnels, je dirais, qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas retenus dans le groupe premier?
Oui, ça c'est le but aussi du centre de formation. Sylvestre vous en dira quelques mots. C'est le but de pouvoir faire intégrer le samedi en Ligue A, c'est-à-dire en pro, les joueurs du centre, et en même temps les faire jouer le dimanche avec la réserve. C'est autorisé.
C'est autorisé, et ça c'est une bonne chose. Alors justement, la réserve, on en a touché un mot, Sylvestre Saint-Martielli, en tant que vice-président, vous avez un peu pour mission de porter ce centre de formation, un projet ancien, mais un projet qui voit le jour, qui se construit et qui va s'affiner maintenant au fil, enfin qui est concret, et qui va s'affiner et s'améliorer au fil du temps.
Oui, tout à fait. Nous avons cette année réussi à mettre en place ce centre de formation. Alors si on est puriste, il faut dire qu'il faut attendre le mois de janvier pour avoir l'agrément ministériel. Mais pour autant, le centre fonctionne. Il y a un directeur, il y a un entraîneur. Tout l'encadrement administratif et technique est mis en place. Les jeunes sont recrutés. On a 4 joueurs en contrat qui peuvent jouer en ce qu'on appelle les contrats d'aspirants, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec l'équipe pro. Et on a un jeune qui a un statut d'amateur. Et comme disait Antoine tout à l'heure, les 4 joueurs aspirants peuvent effectivement jouer avec l'équipe de National 3.
Alors ces 4 joueurs, ces 5 joueurs, on va oublier le côté aspirant et amateur, mais ces 5 joueurs qui ont intégré le centre de formation, ils sont ajacciens, ils sont issus du CRU, ou est-ce que ce sont des garçons que l'on va chercher aussi ailleurs?
Alors on a 3 joueurs qui sont... 2 qui sont issus du CRU, et plus particulièrement du club. Un joueur qui est d'origine corse, qui est d'origine de Morato et qui vient de Narbonne. Et 2 joueurs qu'on a été chercher à l'extérieur, puisque le centre de formation doit avoir à minima 5 joueurs dans son centre. Et ça peut aller jusqu'à 8. Bien évidemment, l'objectif à terme, c'est d'avoir un maximum, si ce n'est la totalité, de joueurs issus du CRU.
Alors, on va revenir dans quelques instants, Antoine Exiga et Sylvestre Saint-Martielli, sur ce centre de formation, un peu plus dans le détail, dans son fonctionnement et dans ses grands objectifs. Le temps pour nous de quelques notes de musique et on revient parler volleyball en votre compagnie.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule et que je peux inventer que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer. Tous les jours
RCFM, le Mag Sport.
France Bleu, RCFM.
France Bleu.
À 6h18, passé de 21 minutes sur RCFM, très précisément, nous parlons de volleyball avec Antoine Exigan, le président du GFCA, et son vice-président Sylvestre Samarché, lié à un club du Gazélec qui, on le disait, Antoine Exigan, s'est a voulu cette année se donner réellement les moyens de se structurer, d'avoir des bases plus fortes.
Oui, on peut le dire comme ça, oui, c'est des bases, mais vous savez, ça nous tenait à cœur depuis un certain temps. On ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas encore bien la restructuration s'est faite progressivement et on va certainement l'amplifier, mais aujourd'hui, il fallait rentrer dans cette structure-là pour pouvoir aligner en même temps, disons, un centre qui nous permet de pouvoir faire venir des jeunes joueurs. De n'importe où, je dirais. Et ensuite, bien sûr, des locaux, a priori. La priorité, c'était de faire progresser des joueurs locaux et en même temps de performer aussi au niveau de rajeunir aussi le groupe et de performer en Ligue A aussi. Donc, tout ça, c'est vrai que cette année, avec nos moyens limités, il fallait le faire et on l'a fait. Voilà, c'est tout.
Oui, ça renforce la structure hein, du Gazélec dans son ensemble. Je pensais en termes de construction, ça fait des fondations plus saines, plus solides et qui vont permettre au Gaz maintenant peut-être de prendre progressivement avec le temps une nouvelle dimension, une entrandadura di radio.
Pour les Mélicousi. Oui, c'est vrai, oui, une autre dimension. Mais bon, vous savez, la dimension, on l'avait déjà un peu réalisée, puisque ça fait déjà 4 années qu'on performe, disons, plus dans les 4 premiers de disons, à chaque fois, et qu'on est européen. Vous avez vu que sur même cette année, on a failli, disons, titiller la Ligue des Champions, même si on peut peut-être en rigoler aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on avait battu Chaumont, on avait peut-être une chance d'aller là. Mais bon, je pense qu'il faut rester quand même prudent. Je crois que le repas, comme on dit, nous va très bien et j'espère qu'on pourra, disons, faire un bon chemin.
Et se maintenir à ce niveau de compétition, ce qui est déjà, je pense souvent à ce que disait Frédéric Antonetti à l'époque du Sporting quand il jouait en Ligue 1. Tant qu'on est en Ligue 1, tous les ans, on fait des exploits. Et c'est un peu ce que réalise cette équipe du Gazélec au niveau volleyball. Un exploit que de jouer au plus haut niveau. Sylvestre Samarcelli, on revient sur ce centre de formation. 5 joueurs y l'ont intégré cette année. 5 joueurs, on peut aller jusqu'à 8. Comment fonctionne un centre de formation de volleyball? Est-ce que la structure est la même que pour le football, avec un accompagnement précis des joueurs, tant au niveau sportif qu'au niveau, je dirais, éducation scolaire?
Tout à fait. Ce sont les mêmes objectifs d'un point de vue sportif, c'est d'amener des jeunes à devenir des volleyeurs professionnels. Et en termes d'éducation, c'est de les aider à obtenir une formation, un diplôme. Nous, cette année, par exemple, nous avons un joueur inscrit en école d'ingénieur, 2 jeunes inscrits en BTS et 2 jeunes inscrits pour passer le bac. Donc les objectifs sont exactement les mêmes. Ce qui différencie le volley du football, c'est qu'il n'y a pas de structure, je dirais, matérielle. On n'a pas un centre, on n'a pas des bureaux, des locaux où les jeunes sont installés dans des classes. On les accompagne dans la formation, on les accompagne par des aides sur place. On est en train de voir, par exemple, avec le lycée Fèche pour que les jeunes puissent suivre un certain cours en local. En général, ils sont plutôt inscrits par correspondance. Mais l'objectif reste le même, c'est joueurs professionnels et être diplômés pour soit plutôt si malheureusement ça ne marche pas dans le volley, ou plus tard lorsqu'ils finiront leur carrière professionnelle.
Et avoir déjà la reconversion en ligne de mire. Sylvestre, vous parliez de jeunes qui font des écoles d'ingénieurs, qui sont en BTS. Ça veut dire qu'un centre de formation dans le volley, on l'intègre plutôt tard? Ou est-ce que, à partir de quel âge on peut intégrer un centre de formation, tout simplement?
On peut l'intégrer, légalement c'est à partir de 18 ans, il peut y avoir des dérogations jusqu'à 16 ans, mais en général c'est 18 ans, 23 ans.
C'est pas trop tard, justement, au football, on intègre un centre de formation bien plus jeune en termes de détection.
Ça pourrait être plus tard, mais il faut savoir que les centres de formation, pour que le jeune progresse assez vite et puisse devenir un joueur professionnel, le délai est de 2 ans. Il doit pouvoir déjà jouer un peu avec les pros. Sur les 4 joueurs dont je vous parlais tout à l'heure, 4 font partie des 12 joueurs de l'équipe. Donc, ça peut, mais éventuellement, certains talents pourraient jouer à partir de 16 ans et dans ce cas-là, on pourrait obtenir des dérogations.
Alors, l'idée, c'est quoi maintenant? C'est de développer le volet au niveau des jeunes, au niveau régional, plus largement, pour en faire une détection, pour aller chercher peut-être les pépites?
Tout à fait. Le fait d'avoir un centre de formation et une équipe de National 3 donne des perspectives intéressantes à des jeunes. Lorsque vous n'avez pas ça, le jeune, il va jouer jusqu'à 15-16 ans et puis tout de suite derrière, il y a la Liga. Donc la marche est beaucoup trop haute. Donc le fait d'avoir une National 3 et un centre de formation, je pense que ça devrait motiver les jeunes et ça devrait les intéresser, se faire connaître, s'investir. Le fait qu'il y ait aussi cette formation scolaire ou universitaire ou d'ingénieur permet aussi de dire, je peux aller dans le volet tout en continuant mes études.
Et la détection, comment elle se passe?
La détection, elle se fait alors. On n'a pas un championnat très étoffé au niveau de la Corse, bien évidemment. Donc, ce qui limite les détections, on compte beaucoup, parce que malgré tout, il y a des clubs, on compte beaucoup, on travaille aussi avec les lycées, les collèges, avec les éducateurs, essayer à ce moment-là de pouvoir repérer les jeunes, d'aller les voir jouer, de les inciter à venir chez nous.
Voilà, donc il y a un long travail. En fait, c'est Antoine Exiga, c'est un long travail qui se met en place progressivement. Tout ça ne va pas se faire en 2 ans, on va dire.
Non, ça ne va pas se faire en 2 ans, mais il fallait déjà
lancer la machine.
Proposer. Il fallait déjà le mettre en place. C'est ce qui est fait. Et ça, c'était une grosse décision, je dirais une grande décision de notre part, parce qu'on ne voulait pas, s'arrêter, parce qu'on a eu des gros soucis par rapport à. Par rapport à l'an dernier déjà, avec ce budget qui nous a été, qui était en baisse, et qu'il fallait trouver des solutions pour pouvoir, je vous dis, rajeunir le groupe et bien entendu revoir un peu nos ambitions. Mais tout ça, il fallait le faire aussi en mettant en place ce centre de formation. Et j'espère que l'agrément arrivera assez vite pour pouvoir, l'officialiser d'une façon beaucoup plus importante, c'est-à-dire pour que l'État puisse le reconnaître. C'est des labellisations, c'est des labellisations ministérielles. Hein. Donc, il faut à peu près 2 ou 3 mois. Je pense que fin de l'année, début d'année prochaine, on aura notre agrément.
Voilà, un agrément qui va permettre de rouler un peu plus sereinement avec ce centre de formation et accompagner cette équipe de National 3 et accompagner cette équipe de Liga dans les meilleures dispositions. Maintenant, les objectifs sont là. L'assise est solide, j'ai envie de dire, malgré les péripéties budgétaires, on va dire, extrasportives de ces derniers mois. On est confiant, il y a une équipe dirigeante, Antoine, Sylvestre, motivée, qui est là, qui vous accompagne, qui s'investit pleinement.
Complètement motivé, on est très solidaire et notre volonté, c'est toujours d'aller de l'avant, on est toujours optimiste.
Voilà, l'optimisme, optimiste, on va l'être, Antoine, dès la semaine prochaine, c'est ça, on démarre le championnat de Liga à l'extérieur.
Tout à fait, on démarre à Narbonne, un peu, je dirais, avec, comme je vous ai dit, avec une préparation tronquée, mais on démarre quand même courageusement, on va essayer de réaliser une première partie de la meilleure des façons. Après, on a tout de suite un match dans la semaine, mardi, on reçoit Tourcoing, donc vous voyez que ça va s'enchaîner, le mois d'octobre sera très important, le mois d'octobre et novembre, on aura un bon nombre de matchs, et c'est là que se jouera peut-être aussi la première partie du championnat, sera intéressante pour le reste, parce qu'on va jouer, je crois, 18 matchs sur 2 mois, ce qui est quand même assez, assez important.
Ouais, un rythme très, très soutenu pour cette entame de...
aussi, et l'Europe, puisqu'on jouera en Coupe d'Europe au mois de décembre. On a déjà été tiré au sort, donc on jouera contre une équipe suisse qu'on connaît, puisqu'on avait déjà Amsterdam, on l'avait déjà rencontré il y a 2 ans. Donc voilà. On ira là-bas et on recevra au match retour.
Antoine Exiga, Sylvestre Sammarcelli, merci encore d'être venu jusqu'à notre micro en ce dimanche pour parler de volley, pour parler du GFCA, d'un club qui se structure, d'un club qui va de l'avant malgré les difficultés rencontrées, on le disait, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Et quand on parle de difficultés, on parle extra-sportif, parce qu'au niveau sportif, eh bien, le Gazélec nous a régalé jusque-là. Et je fais le pari, Antoine, Sylvestre, que ben, le Gazélec va nous régaler encore cette saison.
On n'en doute pas un instant.
Allez, pari lancé. Antoine, Sylvestre, encore merci d'être venu jusqu'à notre micro. Et puis, on se donne rendez-vous dès dimanche prochain pour parler à nouveau du GFCA avec le premier résultat de Liga. Et puis, on suivra évidemment ce championnat de National 3 avec beaucoup d'attention. Encore merci et à très bientôt.
À bientôt, merci.
Bon laser.
La pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Shadow in the moonlight, a lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait, eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait, eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait.
RCFM, le Mag Sport.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
18h passé de 35 minutes sur RCFM, l'occasion pour nous à cette heure-ci de faire un petit rappel des quelques résultats qui nous sont parvenus. Tous ne le sont pas. Notre standard est en vert, 04 95 32 22 22. Championnat de Régional 2 de football, de Régional 3, de Régional 4. Il nous manque énormément de résultats. Alors, si vous voulez bien nous donner un petit coup de main, nous passons un petit coup de fil. Nathalie, elle est là, elle est au standard et elle vous attend et c'est avec plaisir qu'elle vous répondra. Football, donc, avec le championnat de Régional 1, troisième journée au programme ce dimanche, une troisième journée bénéfique pour le Gazélec et l'Étoile, co-leader de ce championnat, tous deux victorieux, vainqueurs aujourd'hui. Le Gazélec est allé l'emporter 3-0 sur la pelouse de Porto-Vecchio, victoire de l'Étoile dans ce qui était certainement le match du jour, victoire de l'Étoile sur la pelouse du Gallia Club de Luciana, sur le score de 4-2, le Gazélec et l'Étoile qui s'envolent avec 12 points au classement et qui compte désormais 3 points, 3 longueurs d'avance sur l'AJB. L'AJB qui l'a emporté cet après-midi aux dépens de la Kazinka sur le score de 1-0. L'autre bonne opération du jour est à mettre à l'actif du Sud Football Club, le Sud qui l'a emporté du côté d'AFA sur le score de 4-1. Les autres résultats de cette journée, c'est Bocognano qui l'emporte aux dépens de Ghisonaccia sur le score de 2-0. Le réveil de Bastelligaccia qui signe sa première victoire de la saison face à Furiani, score de 3-1. Et puis on saluera également la victoire de Corté face au Nebbio sur le score d'1-0. Corté qui, après ses déboires administratifs et sa non-accession au championnat de National 3, bien Corté, débutait avec un petit peu de retard sa saison au niveau régional. Et Corté donc l'a emporté et prend donc les 4 premiers points de la saison dans ce championnat de Régional 1. On jouait également en Régional 2, une journée particulièrement difficile pour le trio de tête, Bonifacio, le Sporting et Bastia Borgo, qui se partagent la première place du classement avec 10 points. Eh bien, ces trois équipes avaient la possibilité aujourd'hui de creuser l'écart avec leurs principaux poursuivants. Eh bien, ces trois équipes ont concédé le nul, notamment le Sporting, tenu en échec par la Costa Verde, score final 1-0. Bastia Borgo tenu en échec également par Santa Rebarada sur son terrain, un score final 1-0 également. Même résultat pour Bonifacio, mais en déplacement du côté de l'Oriente, 1-0. Une journée qui pourrait peut-être profiter à Montigelo, qui était en déplacement aujourd'hui du côté de Bastelligaccia. Montigelo avec 9 points et en cas de victoire peut prétendre prendre les commandes de ce championnat. Malheureusement, nous n'avons pas le résultat. Si quelqu'un nous entend, eh bien, c'est avec plaisir qu'on récupérera ce résultat au standard. On jouait au rugby aussi aujourd'hui. Première journée du championnat de promotion d'honneur A. Journée que le RC Ajaccio disputait à domicile face à Sorgue, mais l'équipe ajaccienne amputée de préparation n'a pu résister à Sorgue qui incontestablement sera l'un des favoris de la compétition cette année. Sorgue s'impose donc à Ajaccio sur le score de 16-10. On jouait également en première série Isola 15, fusion de Ventis et Porto Vecchio. Isola 15 était en déplacement du côté de Saint-Rémois et la formation insulaire s'est inclinée sur le score de 27-22. Défaite également honorable du RC Luciana du côté de Lérins, une équipe de Luciana qui a été battue sur le score de 30-26. On jouait en handball en National 1, cinquième journée. Le GFCA hier soir l'a emporté aux dépens de Saint-Flour sur le score de 40-23. Une victoire qui permet à l'équipe ajaccienne de rester deuxième ex aequo au classement à deux petites longueurs du leader Chambéry. Ajaccio qui la semaine prochaine jouera du côté de Montpellier. Ce sera un premier véritable test pour cette équipe du Gazélec. La réserve ajaccienne en National 3 a été chercher le partage des points du côté de Vitrolles après avoir fait match nul, le score final 28-28. En revanche, contre-performance France sur le fil, malheureusement, pour Corté, battu dans sa salle par l'équipe de Marignane. Score final 23-22 pour Marignane. Corté est quatrième avec 7 points à 2 longueurs du Cavegal de Nice, leader. Et puis le GFCA, pour sa part, est sixième et se situe au milieu de ce championnat de National 3. Et chez les dames, on jouait en National 2. Les filles du HAC se sont lourdement inclinées cet après-midi du côté face au handball Garden. 34 points à 19. Nous n'avons pas de nouvelles, malheureusement, de handball Ajaccio Graouane. Le HAC, pour l'instant, qui reste lanterne rouge de ce championnat. Et puis, on jouait au volley également ce week-end avec cet après-midi. En National 3, vous l'avez entendu il y a quelques minutes tout à l'heure, Antoine Exiga nous donnait le résultat en direct de la réserve du GFCA qui était en déplacement du côté de Mandelieu, une réserve ajaxienne qui s'est inclinée au tie-break sur le score donc de 3-7 à 2. Il y avait de la course à pied, si on peut appeler ça de la course à pied, avec la 30e édition hier de la Paoline, une course entre l'île Rousse et Morozov. 70 km au programme, 200 coureurs au départ de cette épreuve qui soufflait donc cette année ses 30 bougies. Et la victoire finale est revenue à Jérôme Charton qui s'est imposé pour la 3e fois consécutivement en individuel. Jérôme Charton qui est parcouru les 70 km en 5h47 minutes et 10 secondes. Le deuxième, c'est Stéphane Moulet qui a parcouru la distance en 6h13 minutes et 14 secondes. Troisième, Christophe Raffini en 8h10 minutes et 22 secondes. La première dame, c'est Christine Ménard qui est arrivée en 8h34 minutes et 8 secondes. 5h, 3 heures de mieux que quasiment ses principaux poursuivants. Jérôme Charton était évidemment satisfait de sa course. Il nous l'a raconté il y a quelques minutes. On a pu le joindre au téléphone.
Tout le plaisir par cette course-là, parce que c'est une course historique déjà. Et gagner 3 fois d'affilée. Très content parce que j'ai appris à arriver, que j'étais le seul à avoir gagné 3 fois d'affilée ou en 30 ans de distance.
Alors une course particulièrement difficile, à quel moment est-ce que vous avez fait, longue de 70 km on le rappelle, à quel moment vous avez fait la différence, vous avez fait l'écart avec vos principaux poursuivants, puisque grosso modo à la louche comme ça vous finissez quasiment avec une demi-heure d'avance?
Je voulais partir prudemment par rapport aux autres années. Et en fait, au premier pointage et deuxième pointage, j'étais dans mes temps. Et au niveau de Belvedere, j'ai dit, pendant 7 km vers Pascal, ça m'entraide. Et je préférais gérer, mais je sais pas, j'avais des ailes. Alors j'ai dit, bon, on va courir bien. Très bonne sensation. Et après, dans la descente, je voulais faire un sacré écart, parce que c'est là où on peut faire des écarts. Et ça n'a pas marché comme je voulais, c'est impossible de descendre, pas de vitesse du tout. Alors j'ai dit bon, on va gérer en endurance. Après au bout de la pontée, j'ai vu j'étais en retard de mon record. Alors j'ai dit bon, on va essayer de éviter les dégâts et puis finir en route révime, parce que dans 15 jours il y a le marathon de Porto Vecchio. Alors j'ai demandé les écarts avec mon poursuivant. On m'a dit qu'il y avait 30 minutes. Alors j'ai dit, bon, ça va, je peux gérer.
Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez géré. Pas de nouveau record établi, malgré tout. une déception, j'allais dire, dans ce bonheur immense, déjà, de remporter la victoire pour la 3e fois consécutivement, on le rappelle. La Paoline, c'est une course vraiment particulière sur le circuit insulaire.
Oui, c'est une course très mythique déjà, parce que ça, elle est historique et elle est tellement difficile, il y a très peu de participants, c'est un peu dommage parce que quand on dit on gagne avec plus de participants, c'est pas vraiment comment on peut expliquer ça, c'est ça fait très peu. C'est C'est le temps le plus important, on va dire.
70 km, c'est vraiment une course hors norme. Vous vous préparez particulièrement, vous avez une préparation bien spécifique pour ce type de rendez-vous?
Oui, parce que depuis 2 ans maintenant, je fais des longues distances. Et à vrai dire, 70 km, pour moi, c'est rien du tout. Parce que maintenant, je monte sur 12 heures, sur 100 km. Et cette année, j'ai même fait un 24 heures au Stade France. Et alors, 70 km, maintenant, c'est de la rigolade, on va dire.
Vous prenez ça avec le sourire, c'est une bonne chose. Prochain rendez-vous, donc l'extrême sud, Porto Vecchio, Jérôme, avec toujours cette même ambition, cette même volonté de gagner.
Voilà, c'est ça, on va essayer de faire la passe de 3 victoires d'affilée en Corse, on va dire. C'est après le marathon d'Ajaccio, la Paoline, on va essayer de faire la passe de 3.
Tante bricioso piate, un santo che cadene, un yoga resistente, tanti orni a sperare, tante notte a piangere.
France Bleu, RCFM. France
Bleu. Et l'on parle à 18h48 de sport mécanique avec le Tour de Corse historique qui est dans les starting blocks. Les voitures font chauffer les moteurs. Il y aura quelques tours de roue demain, mais le véritable départ de ce Tour de Corse historique sera donné depuis Porto Vecchio mardi matin. Les pilotes vont partir pour quelques 350 km d'épreuves chronométrées. Le tour est parti sur 5 jours. Départ de Porto Vecchio, l'arrivée se fera en fin de semaine également du côté de Porto Vecchio. Beaucoup de pilotes, 180 équipages au départ environ. C'est un beau record. Jamais un rallye n'a eu autant de pilotes et de voitures engagées sur une épreuve. Des pilotes, beaucoup de pilotes corse évidemment, et puis de très belles voitures. Présentation de ce Tour de Corse automobile avec son chef de file José Andréani. Bonsoir José Andréani, merci d'être avec nous sur RCFM pour parler du Tour de Corse historique, l'histoire d'un mythe, une histoire qui n'en finit pas de durer, j'ai envie de vous dire.
Oh oui, tout à fait, on est à la 19e 19e édition et nous préparons déjà la 20e. On va essayer de faire quelque chose de très fort pour la 20e, même si on considère que la 19e sera belle aussi, attention. Hein. Voilà, mais je veux dire, on pense déjà à demain, donc vous voyez.
Ouais, vous êtes largement en avance sur les plannings. Je dirais qu'on n'a pas encore disputé une épreuve, que vous êtes déjà dans l'autre.
Eh oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait.
Il faut aller vite.
Voilà, il faut aller vite. Ouais.
Revenons-en à nos moutons. Notre histoire du mythe cette année, qu'est-ce qu'elle nous réserve de beau? Parce que
le logo, c'est la rencontre des légendes. Voilà, en fait, c'est la rencontre des légendes, des hommes et des machines qui ont marqué l'histoire.
Alors cette légende de cette année, elle se présente comment?
Pas mal, pas mal. On a un plateau qui est pas mal du tout, beaucoup d'engagés. On résiste, bien que ce soit très, très, très difficile. On résiste. On avait pratiquement 200 inscrits. On sera un peu moins parce qu'il y a des forfaits, comme tous les ans d'ailleurs. Hein. L'an dernier, c'était la même chose. Donc on partira aux alentours de 180 et des poussières. Quoi. Voilà.
Ce qui reste quand même, en termes d'inscription, une participation plus qu'honorable. Quoi.
Bah, oui, tout à fait. C'est le rallye aujourd'hui en Corse qui fait le plus de participants, effectivement. Tout à fait.
Alors vous le disiez, il y a des noms, il y a des machines. On a quelques personnalités qui seront là au départ.
On attendait une personnalité. Malheureusement, elle a eu un souci personnel. Bon, voilà, la personne de François Chatriot est... Et on pourra pas l'avoir, mais bon, il y a quand même des pilotes, je pense à André Caruso qui est en tête du championnat de France et François Foulon qui est second du championnat de France VHC. Pour des noms vraiment dont on attend toujours, bon, il n'y a pas cette année, mais c'est pas plus mal aussi, je m'en plains pas, franchement.
C'est un plateau plus ouvert.
Ça veut dire que la compétition est ouverte. Et je pense que les Caruso, Jean-Paul Leville, donc le régional de l'étape, Foulon, Joël Marquette, Pierre Vivier, Christian Kelder, ce sont des gens qui vont se battre pour la victoire. Et j'en oublie d'autres, hein, certainement, hein, qui m'excusent. Bon, il y a Daniel Rognon, il y a Elia Maurice qui est un habitué du Tour avec une très belle escorte RS 1600. Voilà, et donc il y a pas mal de monde et ça va rouler assez fort, je pense.
Alors, pas de célébrité.
Le spectacle va être beau.
Ouais, pas de célébrité, José, mais du monde, vous étiez en train de le dire. En revanche, sur le plateau automobile, à proprement parler, là aussi, ce sont de belles voitures, des voitures qui ont marqué l'histoire, elles aussi, qui seront au départ de cette épreuve.
Tout à fait, oui, parce qu'il y a effectivement un contingent important de Ford Escort et de Porsche, mais après, il ne faut pas oublier les R5 Alpine, les R5 Turbo, les... qu'est-ce qu'il y a que des BMW évidemment, Renault 11, j'ai Jean-Claude Thor avec une très belle, magnifique Talbot Sunbeam qui était champion du monde dans les mains de feu Toivonen, Henri Toivonen et un célèbre pilote français, en l'occurrence maintenant j'oublie son nom le patron de Citroën dont j'oublie le nom, mais voilà, il y a de très belles autos, des A310, des Lancia, il y a un MM3, il y a vraiment un panel très très varié de voitures.
On va en prendre plein les yeux avec des voitures qui vont courir, José, comme en spécial normal, hein, route fermée. Comment ça se passe?
Tout à fait. Oui. Le rallye, le Tour de Corse historique est un rallye sur route fermée avec une vraie compétition. Mais si vous voulez, pour aller dans l'explication, vous tout vous dire, nous avons trois plateaux. Le plateau compétition qu'on appelle VHC, le plateau régularité qui s'appelle VHRS, et un plateau légende, en fait, ce sont des gars qui ne veulent pas être chronométrés. En fait, ils ne veulent pas être chronométrés parce qu'ils ont les mêmes voitures que les autres, mais ils ne veulent pas risquer de casser leur voiture, parce que souvent, ce sont des voitures qui sont très, très chères. Ils veulent rouler avec, mais ils veulent surtout pas la casser. Voilà.
Alors.
Mais ils veulent se faire plaisir. Donc, on estime que, on se doit de les faire rouler eux aussi. Pourquoi ils ne rouleraient-ils pas? Et ça nous paraît important. Donc il y a vraiment trois plateaux différents.
Voilà. Et ils n'iront pas au bout, ils ne prendront pas, peut-être pas tous les risques, mais ils vont rouler et à grande vitesse aussi. Il faut le préciser. Sur un parcours qui a été revu, repensé, corrigé, oui, amélioré.
Tous les ans, on essaie de varier. Et cette année, par exemple, sur Porto-Vecchio, le mardi après-midi, après la cérémonie de départ, où il y aura deux spéciales de 5 et 7 kilomètres autour de la région extrême sud, c'est-à-dire route de Bonifacio sur le village de Kerr, une spéciale, et une deuxième de village de Tarabuchet près de Figari. C'est une boucle de 7 kilomètres. Voilà. Et on part le lendemain, le mercredi, pour un Ventiser. Et en fait, c'est pas une classique du Tour de Corse, mais elle est vraiment sur le parcours et c'est une très belle spéciale. D'ailleurs, du rallye du Costa Serena à Côte d'Enacre. Donc voilà, et après on fait un Lou Godinat à Gisone et Col de Sorbe, qui est un des mythes du Tour de Corse, et regroupement sur Francardo, et de nouveau après l'après-midi, deux spéciales en Pontelleccia à Pontenovo par Castellare di Casinca et Castellare di Casinca, et Lento Morato pour finir sur Saint-Florent.
D'accord. Donc ensuite,
ça va être long si je déroule tout le rallye.
Mais non, mais
pour les deux premières journées.
On va donner les deux premières journées. On rappelle que le départ se fera de Porto Vecchio, l'arrivée sera jugée, quand et où?
Alors samedi après-midi sur le parc fermé de la marine, du terre-plein de la marine à Porto Vecchio, avec une remise des prix en fin d'après-midi.
Il y en aura pour toutes les régions, pour tout le monde.
Ben oui, puisqu'on sera présent sur les regroupements, entre les regroupements et les villes, ça fait quand même huit étapes différentes, c'est-à-dire Francard de Saint-Florent, La Porte à Calvi, Cargese, Ajaccio, Quinte à Porto-Vecchio.
Un vrai Tour de Corse.
Pas mal, hein.
Un vrai Tour de Corse. José, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on sera évidemment avec vous tout au long de cette semaine pour suivre les bolides sur ce Tour de Corse historique. Merci José.
Au revoir.
RCFM, le Mac des Sports.
Voilà, Mac des Sports qui touche à sa fin, tranquillement, on y arrive avec, vous l'avez entendu donc, durant ces quelques minutes, et cet entretien avec José Andriani, le Tour de Corse historique dont le départ sera donné mardi.